Radio Barque, 21e de notre saison, c'est la troisième partie, avec Jacques Bascou aujourd'hui comme invité, alors qu'on a déjà entendu, puisqu'on a eu déjà un certain nombre de points de vue et d'éclairages. Je rappelle quand même que Jacques Bascou, vous avez une carrière politique déjà assez longue, puisque vous avez été pendant 15 ans député, de 97 à 2012 pour être précis. De 2008 à 2014, vous avez été également maire de Narbonne et en même temps président de l'agglomération, ce que vous êtes aujourd'hui. Mais c'était une agglomération déjà un tout petit peu plus petite, si je puis dire. Voilà. Alors aujourd'hui, depuis 2014, vous êtes président du Grand Narbonne, de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne. Et c'est votre seul mandat. Vous avez fait une petite allusion tout à l'heure au cumul des mandats. Alors une première question qui s'impose, très franchement, Jacques Bascou, après avoir été à un moment député, maire et président d'agglo, et n'être aujourd'hui que président d'agglomération, une question à laquelle on a une réponse très franche. Est-ce que vous vous dites ben, « finalement, c'est très bien, je suis bien dans ma peau et bien dans ma fonction » ou est-ce qu'il vous arrive, parce que vous avez moins de responsabilités, de vous, entre guillemets, vous ennuyer ?
Non, on s'ennuie jamais. Je crois que, bon, moi j'ai fait le choix à un moment de ne pas me représenter comme député. Malheureusement, le système politique français, qu'on soit de droite ou de gauche, nécessite d'être à tous les niveaux de pouvoir. Et c'est, je crois, aujourd'hui, la crise démocratique vient aussi de là. Il faut tout contrôler. Et donc je trouve que c'est quand même dommage. Donc moi, j'ai fait le choix de laisser député. Je vous rappelle qu'il y avait une majorité au sein de mon parti pour qu'effectivement, on limite le cumul des mandats. Puis ça n'a pas été fait. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Alors s'ennuyer, non, parce que au niveau d'une agglomération, il y a des projets. Et puis comme vous l'avez dit au départ, en 2008, l'agglomération n'avait pas le périmètre actuel. Nous avons étendu. Donc c'est plus de charges et puis c'est aussi une réorganisation. Nous avons aujourd'hui aussi donc de nouvelles compétences et une agglomération ne peut pas fonctionner comme un super-sivom qui donnerait des services à des élus. Nous avons des compétences qu'il faut assumer. Donc tout ça, c'est une transition qui est quand même difficile à mettre en place, mais bien sûr, nous l'assumons. Et puis je crois aujourd'hui aussi que ce qui est important, c'est de voir plus grand et nous avons fait une association qui s'appelle Cœur du Languedoc avec Intercommunalité, Agde, Béziers, Lézignan, la Domitienne, petite communauté d'agglomération à la frontière de l'Aude, et nous-mêmes, et pour essayer d'avoir des projets qui soient de plus grande envergure, et pour aller chercher aussi des financements européens. Donc aujourd'hui, c'est un défi. Ce n'est pas une structure qui est aujourd'hui figée, c'est une structure qui est en devenir. Moi, je crois aux agglomérations, parce qu'en plus, les agglomérations, contrairement à ce que l'on dit, ça peut sauver les communes. Aujourd'hui, on a de plus en plus de difficultés dans les communes pour trouver des gens qui s'engagent et donc avoir des services à la population mais surtout aussi aux élus qui ont de plus en plus de responsabilités, c'est de plus en plus technique, ils ont besoin de structures, de mutualiser et ça aussi c'est un chantier qui est important. Donc vous voyez, on ne s'ennuie pas, les chantiers sont nombreux.
Oui, et puisque les gens ont du mal à comprendre parce que c'est comme ça, c'est que finalement aujourd'hui une agglomération, quand on fait le tour des compétences, ça devient extrêmement important. On le voit au niveau du quotidien. Le Grand Narbonne est responsable de la culture, de l'économie. On parlait tout à l'heure...
Surtout de l'économie. La culture, nous n'avons pas les politiques culturelles et sportives, mais nous avons des équipements. Voilà, donc, ce qui est une ambiguïté. C'est pour ça que je disais que par exemple, la décentralisation est en cours.
Quoi. Mais par exemple, la médiathèque, le conservatoire, le théâtre, tout ça, ce sont des compétences aujourd'hui du Grand Narbonne. On parlait des pompes funèbres tout à l'heure. Enfin, il y a énormément de... Les stations d'épuration, c'est le Grand Narbonne. Donc finalement, et les jeunes l'ignorent ça, mais quand on compare respectivement les pouvoirs d'une ville aujourd'hui et du Grand Narbonne, on a presque l'impression aujourd'hui qu'il y a d'un côté le Grand Narbonne et puis le petit Narbonne. Tellement les compétences sont parties et ont été transférées.
Tout à fait, bon.
Et quand je dis petit Narbonne, je parle uniquement de la limite des pouvoirs. Je ne fais pas allusion à des comportements plus ou moins mesquins sur lesquels on reviendra peut-être tout à l'heure. Donc ça, il faut que les gens s'en rendent compte. Il y a énormément de compétences qui sont de l'agglomération et en l'occurrence, du Grand Narbonne. Michel, une précision.
Mais très rapidement, pour donner une image au Narbonnais, très simple. Hein, un Narbonnais se promène rue droite. La chaussée est de compétence l'idée moulie commune. Les réseaux sous la chaussée,
c'est l'agglo.
C'est l'agglo, oui.
Et le ramassage des ordures ménagères, c'est aussi l'agglo.
C'est l'agglo.
La même rue. Mmh. La même rue, donc, il y a effectivement deux gestionnaires de deux grandes compétences différentes. C'est vrai que, bon, voilà, un exemple qui parle, le fait qu'il devrait parler aux Narbonnais.
Une imbrication qui rend les choses parfois assez difficiles.
Mais comme je le disais, c'est une structure qui est en évolution, puisque jusqu'à maintenant, au dernier scrutin, donc, il y a eu un changement. Auparavant, donc, les communes élisaient des délégués. Aujourd'hui, il y a un vote d'une liste municipale le même jour et d'une liste pour l'agglomération. Donc il y a une légitimité démocratique plus Exactement. Importante. Et ensuite, bien sûr, les conseillers communautaires élisent donc l'exécutif de l'agglomération. Si je vous dis ça, c'est que les gens, aujourd'hui, et surtout dans les petites communes, pour eux, c'est le maire qui est responsable de tout. Or, il faut faire de la pédagogie pour expliquer quelles sont les véritables compétences de l'agglomération.
Et de ce point de vue, entre parenthèses, Jean-Claude, je le dis à Jacques, mais certainement qu'il partage mon point de vue, enfin, j'espère en tout cas. Au tout début de la loi notre de réforme territoriale, il était, et c'était Valigny, en fait, dans le ministre qui avait la charge de cette affaire-là, proposé, c'était inscrit effectivement dans la loi, l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires. Revendication qui date de l'époque chevènement, en fait, de la création des agglos.
Qui
est la seule manière de rendre lisible effectivement le périmètre de l'agglo, ses compétences.
Oui.
Remarque
tout à fait. Retoquée. Tu as raison, Michel, de le souligner. C'est une raison pertinente parce que, souvenons-nous, il y a un an, enfin deux ans à peu près, Jacques Bascou, donc lorsque vous aviez perdu la mairie et gagné l'agglomération, ça a créé un certain nombre de malentendus. On est encore d'ailleurs sur des malentendus et des conflits qui durent plus ou moins. Mais c'est surtout au niveau des citoyens que les gens n'ont pas compris. Effectivement, alors que vous n'avez fait qu'appliquer la loi, finalement, vous de votre côté.
Oui, et puis, si vous voulez, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, bon, moi, je pense que la loi de décentralisation, c'est une logique. Cette logique, elle a été petit à petit remise en cause, notamment parce que...
Et un peu édulcorée, quoi.
Édulcorée, parce que, si vous voulez, en France, on a les présidents de conseils généraux, on a les présidents de régions, et chacun, si vous voulez, veut garder son pré carré. Et je crois que cette logique qui pouvait faire avancer la France dans une époque, aujourd'hui il faut s'adapter, on ne peut pas fonctionner comme il y a 30 ans, cette réforme n'est pas allée au bout. Et j'espère que dans les années qui viennent, nous pourrons aller au bout. Alors ça ne veut pas dire, puisqu'à un moment on parlait de la disparition des conseils généraux, il est évident que le social est un élément important, mais moi, à mon avis, c'est à l'État d'assumer le social comme d'autres risques, et petit à petit simplifier, parce que tout le monde dit, et c'est une réalité, qu'il y a 1000 feuilles administratives, il faut définir des compétences, définir les périmètres qui sont pertinents pour exercer ces compétences et ensuite donc déterminer la fiscalité, parce que ça c'est important,
et, le mode
et les ressources qui vont permettre d'exercer ces compétences.
Et le mode d'élection donc de responsabilité.
Et le mode d'élection.
Alors Jacques Bascou, on va revenir sur les projets, je vois que vous avez énormément de choses à dire à ce niveau-là, mais une petite remarque concernant, si je puis dire, la gestion des hommes. Monsieur Lenoir, qui fut votre DGS à la ville, est parti après la défaite des municipales. Il est parti, je crois, dans le privé. Et alors là, il revient DGS de nouveau à l'agglomération. Il redevient votre DGS, c'est-à-dire, grosso modo, le patron des employés municipaux, pour parler clair. Alors je ne vais pas vous poser la question, bébête, est-ce que vous appréciez ce monsieur, puisque la réponse, vous l'avez donnée. Mais c'est assez surprenant, finalement, comme parcours.
Non, d'abord un constat, ça veut dire que Narbonne est une ville qui attire les gens.
Monsieur Lenoir a été attiré.
Monsieur Lenoir, donc après un passage dans la région parisienne, avec la nostalgie de Narbonne, et donc j'avais toujours des contacts, et puis j'ai pu apprécier Monsieur Lenoir, donc lorsqu'il était à la mairie, c'était pas forcément facile, une mairie après 30 et quelques années, il y a une réorganisation, des habitudes à revoir. Ça s'est fait en souplesse, puisque le personnel de la mairie a été ménagé. Et ensuite, nous avons construit un projet qui a été récompensé, Narbonne ma collectivité, au niveau national. Donc, parce que moi, j'estime que l'ensemble des employés doivent être associés au projet de la collectivité. Et M. Lenoir a fait ses preuves à ce niveau. Voilà, donc ça ne veut pas dire, si vous voulez, M. Brunel, qui était un DGS, qui était également aussi performant, mais dans sa carrière, M. Brunel a souhaité, comme il l'a fait à plusieurs reprises, au bout d'un certain temps, partir. Et il est allé à l'agglomération de Carcassonne, parce que M. Brunel est quelqu'un, est un financier, qui est très bon, qui a pu redresser les choses au niveau de l'agglomération, parce que je rappellerai quand même les difficultés qu'avait le théâtre, qu'avait l'office HLM, qu'avait la société Alénis. Tout ça, ça a été mis à plat par M. Brunel. Et aujourd'hui, malheureusement, l'actualité le montre, il sera vraiment utile à Carcassonne, à l'agglomération de Carcassonne, puisque la Chambre régionale des comptes a fait effectivement un constat qui nécessite effectivement qu'un spécialiste puisse se pencher donc sur cette agglomération.
Michel. Oui, parce que Jacques Bascou a raison de parler de Carcassonne, qui fait l'objet d'une publicité extraordinaire, puisque le rapport la concernant, cette agglo, figure dans le rapport annuel public de la Cour des comptes au plan national, et fait apparaître un certain nombre de dysfonctionnements du point de vue de la Cour, mais elle a raison, de mon point de vue en tout cas, sont emblématiques de ce qui se passe dans nombre de collectivités.
Je serais quand même plus nuancé sur les rapports de la Cour des comptes. Nous, on s'est fait épingler parce qu'on avait augmenté le personnel au niveau de l'agglomération, alors que la loi nous imposait d'intégrer les personnels des deux communautés de communes, donc la première chose. Ensuite, si vous voulez, par exemple, là, on est à un tournant au niveau de l'agglomération, parce que notre situation financière est saine, notamment au niveau de l'endettement, mais à un certain moment, je crois que les élus doivent faire des choix pour des projets, et donc emprunter pour investir, pour créer de l'activité, c'est pas rédhibitoire. Or, la Cour des comptes, souvent, nous demande, finalement, d'être des épiciers, d'être des comptables. Et moi, si je fais de la politique, c'est justement pour m'engager, pour essayer de bouger les choses, et pas avoir une gestion, bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, pas des investissements inutiles, mais je crois qu'il faut aujourd'hui prendre des risques. Les taux d'intérêt sont très bas, nous avons une situation financière, et je souhaite que l'ensemble des élus du conseil communautaire puissent partager mon analyse pour que l'on investisse, donc pour créer de l'activité, de l'emploi, parce que c'est à ce niveau que les élus sont interpellés.
Oui, alors une
la principale remarque que je partage d'ailleurs de la Cour des comptes, et que, prenant Carcassonne comme exemple, quoi, mais là, particulièrement significatif, c'est qu'elle constate, mais c'est un constat que tout le monde fait, que les intercommunalités qui avaient été créées pour mutualiser des compétences, des ressources en fait, et des moyens, aujourd'hui, quand on fait le bilan, on constate que les effectifs, par exemple, et les ressources fiscales des intercommunalités augmentent, et que pendant le même temps, les ressources fiscales et les personnels des communes membres augmentent aussi.
Oui, c'est là où c'est difficile.
C'est là où il y a un dysfonctionnement majeur. Alors, mais qui repose, pondérer mon propos. Mais qui repose sur quoi? Qui repose sur le fait qu'aujourd'hui, dans la loi, les communes membres ont toujours, en fait, une autonomie d'administration. Et rien ne peut empêcher. Sinon, un pacte établi, un pacte purement politique entre l'agglo et les communes membres, sur justement la limitation en question. Mmh. Mais rien ne peut empêcher aujourd'hui une commune d'augmenter ses personnels et ses ressources fiscales, indépendamment de ce que fait l'agglo à laquelle elle appartient.
Alors, le point de vue de Jacques Bascou.
Juste plusieurs remarques par rapport à cette analyse. Au niveau, par exemple, de l'agglomération, on parle des baisses des dotations d'État. C'est une réalité, mais pas dans les proportions que l'on dit. En revanche, on nous confie des compétences pour lesquelles on doit embaucher. Par exemple, les permis de construire qui étaient instruits par l'État, aujourd'hui, c'est l'agglomération. Donc nous avons été dans l'obligation d'embaucher des personnes, d'ailleurs qui viennent des services de l'État, pour instruire les permis dans les communes. Mmh. Donc ça, c'est des charges en plus. Au niveau de la sécurité aussi, on nous demande de plus en plus, au niveau des comités intercommunaux de prévention de la délinquance, d'embaucher du monde sur la politique de la ville, des médiateurs. Donc si vous voulez, ça, ce n'est pas,
c'est pas
pris en compte. En plus, moi, on m'a fait le procès aussi en disant on ne veut pas, vous avez augmenté les effectifs, mais on aurait diminué, c'est à la création donc de l'agglomération en 2008 qu'il aurait fallu diminuer les effectifs des communes. Or, ça ne s'est pas fait.
Exactement.
Voilà. D'accord. Donc, c'est.
Le problème n'est pas l'augmentation en soi des effectifs de la Gouvre, c'est le rapport, le rapport entre la Gouvre et les communes.
Quand on augmente les effectifs, ça veut dire aussi qu'on veut assurer des services. C'est aussi le problème qui peut se poser. Vouloir, c'est ce que je disais il y a quelques instants, vouloir avoir une gestion très comptable, ça voudrait dire, si vous voulez, qu'on n'a plus de services finalement à la population. On peut externaliser éventuellement, c'est ce qui se fait dans beaucoup de communes. Et là, on serait vertueux parce qu'on aurait moins de personnel. Alors, je crois qu'il faut
relativiser
ce... aussi.
Voilà,
Et ensuite, je vois des maires, ils veulent garder leurs prérogatives. Dans leur personnel.
Problème.
Et donc, si vous voulez, c'est le problème de l'intercommunalité, c'est ce qu'on disait l'heure, qui, petit à petit, dans la population, mais également aussi dans l'esprit des élus, n'est pas aujourd'hui une chose acquise. C'est une chose à construire.
Oui, voilà.
Je me demande d'ailleurs, Jean-Claude, je pose la question à Jacques Bascou,
rapidement.
Si l'idée d'un pacte, d'un pacte à la fois fiscal et sur le personnel, ne devrait pas être proposée par le président de l'agglo à l'ensemble de ses communes membres pour qu'effectivement, on évite ou on limite effectivement ce genre d'écart.
Mais on est dans le quotidien d'un fonctionnement d'une agglomération. Vous avez un fonds de compensation qui est de péréquation, qui chaque année est augmenté, à la fois pour les communes, mais aussi pour l'agglomération. J'avais souhaité que les communes bloquent ce fonds de péréquation pour qu'on puisse verser à l'agglomération, qui ferait des politiques plus ambitieuses, notamment services au public. Mais il y a eu, même s'il n'y a pas eu de vote, il y avait une majorité de maires qui, prétextant d'ailleurs à juste titre qu'ils avaient une baisse d'autres dotations, souhaitaient que ce fonds de péréquation puisse être augmenté dans les communes et qu'on ne le bloque pas, alors qu'ils ne perdaient rien.
Exactement.
Et voilà, donc si vous voulez, c'est toute la problématique aujourd'hui. Et je crois que, je peux comprendre les maires, dans la mesure où, effectivement, on le disait tout à l'heure, ils sont élus par leur population, ils ont des comptes à rendre à leur population, et ils sont moins dans une logique intercommunale.
Voilà. Jacques Bascou, pour conclure, est-ce que vous pensez que les relations entre la ville de Narbonne et l'agglomération vont s'améliorer? Dans votre dernier magazine, d'ailleurs, qui vient de sortir il y a quelques jours, vous y faites allusion. Un magazine, d'ailleurs, qui... Je le fais remarquer pour une fois et sans vouloir faire de l'allège, comme on dit, est relativement bien fait puisqu'il est, pédagogique, il est explicatif. Je suppose que vous l'avez voulu dans ce sens-là. Mais vous ne manquez pas éventuellement d'égratigner Didier Mouly en parlant notamment de la politique de la chaise vide. Est-ce que vous pensez que les choses vont s'améliorer ?
Écoutez, objectivement, je le souhaite. Il y a eu une période de campagne électorale, et ça, c'est tout à fait normal, même si j'ai pas trop apprécié certaines attaques qui n'étaient pas forcément à la hauteur du débat. Mais moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on continue à être
en campagne.
Si vous voulez, Didier Mouly a été élu, c'est lui le maire, donc il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il ne peut pas fonctionner comme s'il était dans l'opposition. Il est tout le jour dans mon opposition. Et ensuite, je crois que la campagne, elle est terminée. Il est en campagne permanente. Parce que je vous rappelle quand même qu'il a été... en tout cas, les colistiers ont été sur... Alors qu'il dit qu'il ne fait pas de politique, a été au conseil départemental. Aux élections régionales, il a essayé de jouer un rôle, parce que je rappelle quand même, on l'a oublié, qu'il était à une réunion avec M. Régnier à Toulouse. Et donc, à un certain moment, il s'est intéressé à cette campagne. Et... quotidiennement, il essaye de déstabiliser l'agglomération. Moi, ce que j'essaye de faire, et j'espère qu'il entendra ce message, nous travaillons avec des maires de toute sensibilité. Pourquoi ? Parce que nous déterminons un projet, nous déterminons une méthode et nous essayons d'être de plus en plus transparents. Et notamment en anticipant, en donnant des documents et en faisant en créant un poste de collaborateur pour qu'il améliore le fonctionnement de l'opposition. Donc, tous ces éléments là, les gens qui adhèrent à ce projet, et je vois que petit à petit il y a plusieurs élus qui n'étaient pas forcément qui étaient dans un groupe qui était contre, qui finalement aujourd'hui sont prêts à travailler avec nous. Voilà, donc nous on est moi je n'ai jamais eu la langue de bois. Quand il y a des problèmes, j'essaye pas de les occulter, mais je crois que le temps de la campagne électorale est terminé, et cette agitation nuit aux intérêts des Narbonnais. Nous avons une agglomération qui est citée en exemple à l'extérieur. Nous avons, voilà, et je comprends que dans une campagne, et je finirai par ce point, point. Dans une campagne, on essaye de prendre le contre-pied. Donc, par exemple, sur la piétonnisation, on m'avait dit que c'était une horreur. Les barques, c'était une horreur. Et aujourd'hui, je vois qu'on revient finalement et on continue à piétoniser. Bon, alors, par exemple, sur le plan de déplacement urbain, récemment, nous avons envoyé tout un projet à la mairie. Nous attendons, puisque c'est quand même important que la ville de Narbonne, même si c'est la compétence de l'agglomération, le plan de déplacement urbain, que la ville donne son avis, nous attendons toujours le retour. Et je crois que, par exemple, sur les... Si on veut avoir des transports plus faciles et éviter les problèmes de circulation, il ne faut pas ajouter des voitures au centre-ville. Et donc, il faut des transports en commun. Et il faut des couloirs de bus dédié aux couleurs de bus pour que ce soit plus rapide. Or, on apprend par la bande qu'effectivement, ils ne veulent plus de couloirs de bus. Donc, voilà, c'est des contradictions qui, je vous dis, une fois la période électorale passée, devraient être remisées et travaillées dans l'intérêt général.
Eh bien, écoutez, Jacques Bascou, il faudra que vous reveniez prochainement à ce micro parce que je vois qu'il reste beaucoup de choses en suspens à dire. Merci en tout cas d'avoir été aujourd'hui notre invité. La prochaine fois, nous recevrons Nicolas Sainte-Luc, porte-parole du groupe J'aime Narbonne et de l'association J'aime Narbonne. Après quoi, nous recevrons un syndicaliste enseignant Rémi Sirvin, puis Didier Codorniou, puis Viviane Durand, puis Frère François, avec lequel nous parlerons de religion. Et après, nous recevrons François Lieta, qui est le nouveau patron des Républicains dans les Pyrénées-Orientales et qui a accepté de venir parler à Radio Barque. Merci, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À vous.